Yo Lana, bienvenue sur Tahitian Talk, le podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement.
Initialement axé sur le processus créatif des artistes polynésiens, le podcast s'intéresse désormais à la création artistique, mais aussi aux initiatives remarquables.
L'objectif reste de partager des parcours inspirants, témoins de la diversité et de la richesse de nos îles.
Vous écoutez Tahitian Talk, un podcast co-animé par Myriam Abono et Benjamin Brilouet.
Yo Lana. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Shigetomi pour le premier volet d'une série consacrée aux Tahitiens dans la guerre. Passionné d'histoire et auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l'engagement des Polynésiens dans des conflits locaux ou internationaux, Jean-Christophe Shigetomi est devenu une référence incontournable pour évoquer ces thèmes. Avec passion et érudition, il nous livre ici le fruit de ses recherches liées aux conflits armés entre 1844 et 1846, communément appelée « guerre franco-tahitienne ». Une période encore assez mal connue et pourtant essentielle, puisque c'est à l'issue de ces tensions que Tahiti va devenir un protectorat français. Alors Jean-Christophe Shigetomi, bonjour. Tu es passionné d'histoire, auteur de plusieurs ouvrages, Tamari volontaire, Les poilus tahitiens, Les tahitiens dans la guerre d'Indochine et de Corée et Bobcat, Les Américains à Bora Bora. Tu es par ailleurs auteur de plusieurs articles, notamment sur l'histoire du surf, et tu prépares actuellement la sortie d'un nouvel ouvrage, Tam Hei, Annexion et résistance aux îles de la société 1844-1846. Alors, nous allons réaliser ensemble une série de plusieurs épisodes dédiés à ton travail et aux Tahitiens dans la guerre. Mais avant de débuter cette plongée historique, j'aimerais revenir sur cette passion qui t'anime et que tu m'expliques en quelques mots comment ton implication dans ce travail de mémoire est née.
Bien, en fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été passionné par l'histoire, mais par la grande histoire que on nous enseignait à l'école. Il s'est avéré que il y a eu un accident, on va appeler ça comme ça, un accident d'histoire qui fait que j'ai souhaité m'intéresser à la petite histoire. Et la petite histoire, c'est la nôtre. La petite histoire pour pouvoir la replacer dans la grande histoire. Parce que quand on lisait un livre d'histoire, en fait, l'histoire, elle était générique. Et à quelques détails près, on avait du mal à s'y retrouver. Et à travers la petite histoire, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire des hommes. Mm-hmm. Parce qu'en fait, chaque homme était une histoire à part entière. Et cet accident d'histoire, il va venir d'une rencontre notamment avec M. John Martin, qui était le porte-parole du bataillon du Pacifique. Mm-hmm. Et en m'entretenant avec lui, donc, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de mémoire et qu'il n'y avait pas eu de transmission. Je m'explique, c'est que, d'abord, premièrement, aucun d'entre eux n'avait écrit, ce qui n'est pas le cas des Néo-Calédoniens, parce que beaucoup d'entre eux ont écrit, ont publié leurs journaux de guerre, et nous n'avions pas de musée, de la guerre. Et ce que l'on colportait à travers un petit peu la légende n'était pas forcément souvent très juste. Du moins, elle était un petit peu, des fois, idéalisée.
Un peu approximativement.
Ouais, elle était surtout très idéalisée, c'est-à-dire qu'en fait, on était toujours en train de montrer une guerre propre. Mm-hmm. Hein? Alors qu'en fait, une guerre, ce n'est pas propre. Et la preuve en est, c'est que tous ces hommes qui sont revenus de ces conflits, ils ne sont pas revenus, je dirais, psychologiquement intacts. Ils ont eu énormément de séquelles, que ce soit des blessures ou des séquelles psychologiques. Et c'est cet accident de l'histoire, en rencontrant John Martin, et en me rendant compte qu'en fait, une fois que John Martin serait parti, il n'y aurait plus de mémoire, puisqu'il n'y avait pas mis, on n'avait pas mis en place les outils donc de transmission. Et c'est la raison pour laquelle, en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors la chance que j'avais, moi, c'est que d'abord, j'étais un enfant de la guerre. Parce qu'en fait, on sortait tout juste, la guerre n'était pas si loin. Hein. Et à Tahiti, beaucoup de témoins de ces guerres étaient là.
Étaient encore là.
Étaient là. Ne serait-ce que déjà au niveau de toutes les forces armées qui sont venues à Tahiti, beaucoup vont faire souche, vont prendre leur retraite, je vais aller à l'école avec leurs enfants, etc. et tout. Ils avaient obligatoirement eu le parcours résistance, première armée française, Indochine, Algérie, Tahiti. Donc, ces gens-là, chaque fois qu'on était à table, dans différentes, la guerre était omniprésente et ils l'écoutaient. Et moi, j'ouvrais grandes mes oreilles et j'écoutais. Voilà. Et je ne savais pas. En fait, ça me passionnait. Ce qui fait que j'ai eu le privilège de pouvoir être au contact, enfin, de ces fameux héros. Ils étaient nombreux, hein, parce que dans les années, je dirais, 70, ils sont pas si vieux que ça. Hein. Donc, et voilà. Et donc, ils ont tout leur esprit, toute leur mémoire, etc. Et ça les a profondément marqués. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Puis je vais partir à Aix-en-Provence, je fais mes études là-bas et tout. J'ai un de mes copains, qui est visité par son père et son oncle, et il s'avère que son oncle, c'est Harry Von Kim, donc le dernier des Tamari volontaires. Donc je le rencontre, il est toujours en activité à Paris, et c'est lui qui, en 1981, me raconte le bataillon du Pacifique, me raconte la sortie de Vie Force, et tout ça n'était pas tombé, je dirais, dans l'oreille d'un sourd. Hein. D'abord, j'apprenais, je découvrais et tout. Et c'est la raison pour laquelle je vais donc rentrer dans ce processus de transmission de mémoire, en commençant par les fameux Tamari volontaires, en faisant revivre, je dirais, leur flamme. Et pour cela, pour pouvoir faire revivre leur flamme, il faut travailler sur la base d'outils. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été voir John Martin, je lui ai expliqué que j'allais faire quelque chose sans trop savoir ce que j'allais faire. Il avait les yeux bien écarquillés, ébahis, parce qu'il se demandait bien ce que j'allais pouvoir faire, parce que lui, il avait vu tellement passer de gens qui lui avaient dit « on va faire ceci, on va faire cela, le musée, les machins, etc. » Enfin, rien ne se passait. Et je lui ai dit « la première des choses qu'il faut faire, c'est utiliser des moyens de communication modernes. Et pour ça, on va créer un site internet que l'on va appeler « les Polynésiens dans la guerre ». Et en ouvrant ce site internet, immédiatement, c'est ouvert les portes de l'extérieur pour pouvoir communiquer avec tous les mandarins de la matière, mais aussi tous les anonymes recevaient des messages de gens qui me disaient « mon père était donc à Birakem, il y avait les Tahitiens, il a connu un tel, j'ai des photos dans le désert, ça vous intéresse, j'ai des témoignages, il me parlait souvent de un tel, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Voilà, et ça a créé des liens.
Une communauté, autour de ce sujet.
Une petite communauté, parce que dans ce jeu de mémoire, on se rend compte qu'on est souvent bien seul. Hein. Voilà. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais été aussi à l'école avec l'ensemble des enfants qui descendaient de cet Tamari volontaire, aussi bien chez les marins que chez les parachutistes, que chez le bataillon du Pacifique. Donc j'avais été à l'école avec ces gens-là, et c'est la raison pour laquelle, autour de moi, j'ai pu réunir à peu près une cinquantaine d'entre eux, hein, que je les ai réunis un jour en leur demandant s'ils étaient d'accord à qu'on crée quelque chose qui permette la transmission, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les Tamari volontaires, eh bien, il a fallu que j'aille travailler en archives. Et là, j'ai eu aussi... En fait, le facteur chance est très important. Facteur chance, il est important parce que j'ai réussi à négocier avec l'État d'être autorisé à consulter l'ensemble des livrets matriculaires de ces soldats. Hein. Je vais en consulter presque 800.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que... Parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas les consulter avant 50 ans, après leur mort, etc. et tout. Bon, moi, j'ai eu... expliquant le travail que j'allais faire, d'accord. Donc, j'ai eu la chance, je dirais, de pouvoir consulter ces dossiers matriculaires. Et en consultant ces dossiers matriculaires, en fait, on rentre dans la vie de quelqu'un. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu accès, comment dire,
à leur propre dossier.
Il y a tout, hein, leur notation, leur bêtise, il y a tout, leur dossier médical et tout. Ça fait une trentaine de pages. Mais aussi leur citation, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus, qui ils étaient, le fils d'eux, etc. et tout. Ce qui fait que... En faisant ce travail, je suis rentré dans leur vie et je suis presque devenu un membre de leur famille. Et vis-à-vis aussi des familles de ces Tamari volontaires, ils vont m'accueillir comme un membre de leur famille, puisqu'ils vont m'ouvrir leur fonds photo, leur témoignage.
Leur histoire personnelle.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Donc c'est bien un accident d'histoire. Si je n'avais pas rencontré Monsieur John Martin, pour des raisons, je dirais, qui étaient que professionnellement, je suivais la réhabilitation du fort de Tarabao, et qu'en fait j'avais demandé, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'avais entendu dire qu'on voulait faire un musée du bataillon du Pacifique. Et à la question de dire c'est bien de faire un musée, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Hein, est-ce qu'on a la matière? Ben, je me suis rapproché des associations d'anciens combattants, et notamment qui étaient conduites par John Martin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai écrit, et de l'écriture est sortie deux expositions. Mm-hmm. La première, elle a eu lieu donc, à la délégation de la Polynésie française, le 5 juin, la veille, je dirais, de toutes les manifestations qui allaient avoir lieu pour le débarquement de Normandie. Hein. Ensuite, elle est venue au musée de Tahiti et des îles. Après, elle a eu d'autres cheminements. On va la retrouver du côté d'Angoulême, on va la retrouver à Rochefort et tout. Et je sais que maintenant, elle fait aussi partie de l'exposition itinérante qui est portée par Monsieur Doucet, je crois, voilà, en France. Et du livre est sortie une expo et bien sûr... Un film, hein, oui. Aux armes donc tahitiens de 90 minutes qui a été présenté au FIFO. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir du moment où je suis rentré dans le travail de archivistique, parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé en archives, hein. Il a fallu que j'aille récupérer des tas de documents, des fonds photos et tout, et surtout j'ai beaucoup travaillé avec les gens de l'extérieur, avec les spécialistes, hein, notamment François Broche, qui était le fils de Félix Broche, le capitaine qui avait emporté le bataillon du Pacifique et qui est donc l'auteur du fameux bataillon des guitaristes, hein. Donc on est devenu très 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 proche, on a beaucoup travaillé ensemble, etc. et tout, et à partir du moment où je suis rentré dans le jeu, je dirais de ce travail, tout ce que je voyais qui concernait la Première Guerre mondiale, je le mettais de côté. Tout ce que je voyais qui concernait Bora Bora, je le mettais de côté, en me disant je vais venir le rechercher. Et tout ce qui concernait l'Indochine, comme on dirait la Corée, je le mettais de côté. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais quatre chantiers en parallèle.
Oui. Tout ça, c'est construit ensemble.
C'est-à-dire que en archive, je savais où étaient les docks, je les mettais de côté, etc. Et tout. Alors bien sûr, je suis allé en France. Hein, j'ai travaillé beaucoup. En archives, notamment donc aux Archives nationales de l'Outre-mer. Je suis allé, le service historique de la défense. Je ne sais pas combien de fois j'y ai passé de temps, hein, mais en fait, je commence à être très connu même là-bas.
Je vais dire, tu as un abonnement maintenant.
C'est un passage obligé. Oui. La ressource, elle est là-bas. Voilà. Oui. C'est comme ça qu'on rentre, malgré soi, dans ce jeu, hein, de la transmission de mémoire, mais aussi avec une méthode, en ayant une méthode de travail, okay, et des outils. Les outils ont bien sûr été la création de l'association Mémoire Polynésienne et d'après de la première fondation, je dirais, de Tahiti, qui s'appelle Tupunatumu et qui nous accompagne dans ce mouvement. Et au niveau sociétaire, il ne faut pas croire qu'on est nombreux. Hein. On se compte sur les doigts de la main. On est la composition d'un bureau, quoi. Cinq personnes, quoi. Voilà. Mais avec beaucoup d'adhérents, hein, de sympathisants, ils nous accompagnent. Mais en fait, la force de travail, elle repose sur deux, trois personnes.
Hein. Alors, on va aborder, hein, progressivement dans différents épisodes toutes ces étapes. Mais donc, je te propose qu'on commence, j'allais dire, quelque part par le début, même si c'est en fait un des sujets sur lesquels tu t'es intéressé plus tardivement, en fait. Hein. Et donc, pour débuter cette série, nous allons aborder ensemble la période appelée communément la guerre franco-tahitienne, même si nous allons le voir, cette appellation peut être sujette à caution. Et plus précisément, donc, la période allant de 1842 à 1846, donc aux îles de la Société et à Tahiti plus spécifiquement. Je pense que c'est important aussi de le préciser, hein, puisqu'on l'abordera certainement, cette période trouble, on va dire, de l'histoire. Elle n'est pas que à Tahiti, elle va aussi se dérouler notamment aux Marquises. Mais bon, voilà, il y a tellement à dire qu'on l'abordera dans un autre contexte probablement. Donc, pour commencer sur ce sujet, peux-tu un peu planter le décor et nous expliquer quelle est la situation politique à Tahiti au démarrage de ce conflit, donc environ vers les années 1842, j'imagine, à moins que tu le situes un peu avant.
Bon, en fait, je dirais, si on pose le décor, on va poser le décor du Grand Pacifique. La France est en retard. La France est en retard, les Anglais les ont précédés, ils sont en Nouvelle-Zélande, les Américains sont à Hawaï, enfin pas encore, mais voilà.
Ils sont installés, on va dire.
La France ne s'est pas du tout positionnée elle a fait des tentatives, mais elle ne s'est pas positionnée dans le Grand Pacifique. Et donc l'amiral du Petit Thouars, qui a fait un tour du monde donc, en 1837, en fait, il saisit ses autorités politiques pour dire qu'il faut donc faire quelque chose. Il faut aller poser le pavillon français, je dirais, dans le Grand Pacifique. Au départ, ils ne parlent pas du tout de Tahiti. Au départ, leur vision, c'est les îles Marquises. Ils espèrent, comment dire, aller aux îles Marquises pour pouvoir donc en faire un point de relâche, je dirais, pour les bâtiments français, car en fait, il y a énormément d'économies qui se passent entre l'Asie, l'Alaska, etc., donc les pots de castor, etc., le santal, etc., et tout. Et donc, il arrive à convaincre ses autorités politiques, en l'occurrence ministre des colonies, ministre de la marine, pour monter une armada et d'aller planter le drapeau français aux Marquises. C'est ce qu'ils vont faire. Hein. Donc, il y a une flotte de 6 navires qui va arriver avec beaucoup de soldats, etc. Et tout. Et ils vont annexer les îles Marquises. Ils vont donc d'abord aller à Tahuata. Après, ils vont passer en face. Ils sont à Ivaroa. Après, ils vont à Nuku'iwa. Et en fait, ils s'installent. Voilà. Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte. Et en fait, il n'y a rien à faire aux Marquises. On ne peut pas en faire une colonie agricole. Et c'est la raison pour laquelle ils commencent à s'intéresser au cas de Tahiti. Alors, le cas de Tahiti, c'est que c'est une monarchie. Les Anglais, ils sont majoritairement représentés. La religion protestante est omniprésente. Et on est un peu dans ce que l'on va appeler une monarchie missionnaire, une théocratie missionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien un code pomaré, mais derrière, on sent la main des Anglais, des missionnaires, et en l'occurrence, de fameux pasteur Pritchard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il va y avoir plusieurs petits événements à Tahiti, qui est que deux missionnaires essayent de s'implanter donc à Tahiti, donc Laval et Claré, qui sont malmenés, expulsés, et qu'il y a aussi, de façon marginale, quelques résidents français qui se perdent dans une masse majoritairement anglo-saxonne et qui sont aussi pas forcément bien traités. Et donc du Petit Thouars, donc il était passé déjà une première fois et il avait mis la reine donc pour Marie IV donc à l'amende en lui demandant à travers donc un acte, une convention, de respecter une liberté de culte. Il apprend que en fait, ça se passe pas bien comme ça. Et donc, il décide de cingler sur Tahiti. Mais je pense qu'à travers les documents d'archives, quand on lit les relations qu'il a au niveau de l'écriture avec les autorités du tutelle, il y a bien une obligation, il y a bien un dessein de planter le drapeau français à Tahiti. Quelles que soient, comment dire, les circonstances. Alors les circonstances, ils vont les créer, hein. Ils vont les préparer, parce que quand il était passé la première fois, il avait nommé un consul de France qui s'appelle Maurice Renaud, et ils comprennent bien que, premièrement, à travers les éléments, c'est que, premièrement, Tahiti, la reine Pomare IV, elle comprend bien que dans son organisation politique, elle seule n'y arrivera pas, et qu'elle a un peu besoin d'un tutoring, hein. Notamment au niveau de la sécurité, car il y a énormément de bateaux qui touchent l'île, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de prostitution, etc. Et tout. Et elle sent bien qu'elle a du mal à régir tout ça, et c'est la raison pour laquelle elle aimerait bien un tutoring. Alors peut-être pas employer le mot protectorat, mais elle aimerait bien qu'il y ait un tutoring britannique, avec le respect bien sûr de sa souveraineté. Sauf qu'en fait les Anglais, eux, ils sont servis. Ils ont la Nouvelle-Zélande, etc., l'Australie et tout. Et en fait, Tahiti ne les intéresse pas. Et puis, on est aussi dans une relation diplomatique de l'époque où les relations entre Anglais et, je dirais, Français sont bonnes et on n'a pas envie de les raviver. On s'est tapé déjà les guerres napoléoniennes, c'est bon, on ne va pas en remettre une couche. Hein. Donc, et puis, ils ont d'autres enjeux, les Anglais. Tahiti, ça ne les intéresse pas vraiment. Ils ont d'autres enjeux sur l'Asie, ailleurs, etc. et tout. Bien. Et donc, en fait, du Petit Thouars, lui, il sent qu'il y a une opportunité. Premièrement, le fait que les Anglais réfutent tout protectorat sur Tahiti, mais en estimant que ils vont être les tuteurs de la reine Pomarécate sur Tahiti, en régissant un peu ce qui s'y passe, et en faisant en sorte quand même que les Français ne s'y intéressent pas trop. Hein. Et ça, ils le comprennent bien. Et il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que on est dans une ce que j'appelle une théocratie donc missionnaire. Hein. Donc effectivement, il y a la reine, mais le problème, c'est que cette théocratie missionnaire et tout ce qui est texte, je dirais d'un point de vue réglementaire, notamment à travers le code Pomare, en fait fâche. Mm-hmm. Hein, fâche certaines personnes et remettent même en question, je dirais, la souveraineté de certains chefs. Alors, il y a tout le problème de la souveraineté, je dirais, et de, notamment de la légitimité donc de la royauté, oui, version Pomarécate, vis-à-vis de tout un ensemble de chefs qui, eux, quand même, ont gardé la main, je dirais, sur leur district. Ils sont loyaux, mais à côté de ça, il y a deux critères. D'un premier critère, il y a d'abord eu les schismes avec la Mamaya, hein, qui a été sévèrement réprimé. Et ensuite, il y a quand même l'immersion, je dirais, du catholicisme face à une religion donc forte qui est le protestantisme. Et puis, peut-être aussi, il y a d'autres... c'est là où il faut aller beaucoup plus loin, c'est qu'il y a peut-être parmi les chefs tahitiens certains qui ont déjà des visions, une photographie du Tahiti de demain qui n'est pas forcément, je dirais, cette monarchie à la tahitienne avec Pomare IV. Okay, et ils comprennent que on peut utiliser cette nouvelle intrusion coloniale, parce que la première intrusion coloniale, elle était britannique, française. Hein. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais qui a utilisé qui ? Hein. On parle d'une guerre franco-tahitienne, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une guerre tahitiano-tahitienne ? Qui a utilisé qui ? C'est là où ils ont été très malins. C'est qu'en fait, les chefs, ils ont utilisé la force armée des Français pour pouvoir asseoir leur souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir énormément de ralliés dans les rangs français, et c'est pour ça qu'ils vont l'emporter. C'est comme dans toute guerre coloniale. Vous prenez l'Indochine, hein, l'Empire, les Français n'avaient pas suffisamment les hommes pour pouvoir conquérir l'Indochine. Ils se sont appuyés sur des supplétifs. Donc on est obligé. Mais derrière, il y a un intérêt. Il y a une chose qui est importante, ce qu'on ne sait pas, c'est là où les documents sont très révélateurs, c'est qu'ils ne le font pas que par dessein nationaliste, patriotique, c'est qu'en fait, ils sont enrôlés, ils touchent des soldes, ils mangent et tout, ils sont habillés et tout, et voilà, il y a des avantages pécuniers. Mais dès lors qu'aussi que certains chefs restent fidèles à la reine Pomare IV, tous leurs biens sont saisis.
Oui, j'allais parler de la question de la terre, ouais, aussi, et des biens, j'imagine que c'est central.
Tous leurs biens sont saisis, et ils sont saisis par les chefs qui les ont ralliés. Et c'est la raison pour laquelle Brua, vers la fin de la guerre franco-tahitienne, en fait, lui, il comprend qu'il a intérêt à attirer à nouveau à lui les vrais chefs légitimes. Et c'est la raison pour laquelle il ne prendra pas de mesures de rétorsion contre eux. Au contraire, il les réhabilitera en termes de souveraineté, parce qu'il sait que c'est eux les vrais chefs, c'est eux qui tiennent et tout, et qu'ils ont compris que d'abord les Anglais ne viendront pas, ok, et que ben l'histoire elle était ce qu'elle était, et qu'il y avait un pas qui allait être fait en avant, et surtout il va y avoir des tribunaux qui vont être mis en place pour permettre de restituer tous les biens qui avaient été saisis. Hein, lors, je dirais, de leur ralliement. Vous voyez, donc, il y a toute une dynamique qui n'est pas du tout celle que l'on communique, hein, d'ordinaire. Hein.
Oui, donc, comme tu disais, ce côté un peu romantique de la guerre.
C'est l'accueil. Hein. En fait, l'accueil, on pense tout de suite à l'accueil. On pense, je dirais, l'accueil chaleureux des Polynésiens. Mais non, mais le contact, il s'est fait au bruit du fusil. Mais il avait déjà commencé même avant les Français. Quand Wallis arrive, on tire. Quand Cook vient, on tire. Quand Bougainville vient, on tue à la baïonnette et à l'épée. Donc les Espagnols, bon, ils ont été les plus cool avec Bonnechea du côté de Tahutira, mais parce qu'en fait les circonstances leur étaient favorables. Mais quand on va aller aux Marquises, ça va être le même combat.
Ça va être violent également, bien sûr.
Donc si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans ce chantier de mémoire. C'est de dire, d'abord, il y avait un environnement qui existait, qu'il y a eu quand même une tentative de mainmise qui est venue de façon unilatérale, c'est-à-dire qui est quand même venue d'un chef qui s'appelait du Petit Thouars. Alors on dit qu'en fait il l'a pris de son propre chef. Là, quand on fait lecture, je dirais, des instructions qu'il reçoit, c'est un peu mitigé. D'un côté, on leur dit, tu respectes, mais en même temps, s'il faut, vous pouvez avoir recours à la force pour pouvoir asseoir la présence française, parce que en fait, on est un peu en retard et on n'a pas le choix. Hein. Et voilà un peu comment tout ça se passe. Alors voilà le décor, il est posé. En fait, il y a un environnement, je dirais, qui est favorable aux Français et l'exploitation de certains chefs. Le jeu aussi de certaines personnalités, car en fait, Morenaut, il prépare tout, hein, en amont. Et Morenaut, en fait, c'est lui le vrai artisan, parce qu'il a tout préparé en amont.
Et
il est sur le terrain, mais surtout, il a vu les chefs comme Itoti, il a vu Paraita, il a vu Tati, et il les amène. Alors, bien sûr, après, ils vont dire que tout cela ont signé contre la force. Bon. Ça, c'est plutôt les versions britanniques qui livrent dans leurs journaux ce genre de choses. Mais en fait, c'est de toute façon, on est à une croisée des chemins. Il y avait une monarchie, il y avait des chefs qui ont vu dans cette intrusion coloniale française le moyen de pouvoir asseoir
leur propre pouvoir et
souveraineté pour pouvoir aussi, peut-être qu'ils avaient d'autres visions. Hein, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et après, au niveau de la chronologie, du Petit Thouars arrive, il rencontre la reine, il la met à l'amende, elle s'enfuit, elle va se réfugier à Moréa. Au moment où elle est censée payer et tout, dans la nuit, ils ont négocié avec les chefs qui mettent sur la table, commander une demande de protectorat français signée par les chefs. La reine Pomaré IV, elle est à Montréal, elle envoie ses plénipotentiaires, elle leur dit vous signez rien, mais en fait après elle vient, elle signe quand même contre nature, parce qu'en fait Pritchard lui raconte que elle peut signer parce que les Anglais vont débarquer et vont te balayer d'un revers de la main tout ça et tout. Sauf que quand même, attention, du Petit Thouars, il est arrivé avec quasiment 400 hommes, je dirais, des bâtiments, un peu fleurons, je dirais, de la Royale. En fait, il y a beaucoup de canons. Hein. C'est pas le seul petit bateau anglais qui est juste là pour un petit peu observer ce qui s'y passe. En fait, ils sont venus quand même avec une sacrée démonstration de force. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc la reine signe malgré elle. Donc, si vous voulez, donc la demande de protectorat. Et puis, il va y avoir une escalade. Et l'escalade va venir, ce qui est très amusant dans cette affaire, elle va venir d'une histoire de pavillon. Le pavillon, c'est pas forcément quelque chose propre, comment dire, à la culture polynésienne. Or, cette histoire de pavillon, en fait, va être l'effet déclencheur, je dirais, de la guerre à Tahiti, comme de la guerre, je dirais, aux îles Sous-le-Vent. On attache une importance incroyable aux couleurs du pavillon. Donc, du Petit Thouars, avec Bruat, fait établir un pavillon dit du protectorat, qui caractérise par ce qu'on appelle un yacht, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge dans une petite fenêtre, et après sur fond blanc, deux bandes rouges. Voilà. Et là, la reine Pomaré IV, sur ses édifices, refuse de faire monter, je dirais, le pavillon du protectorat. Et alors, il y a toute une histoire. Alors d'un côté, on négocie, alors les Anglais en plus lui avaient amené un pavillon, hein. Elle lui disait tu t'as qu'à ériger, je dirais, donc ce pavillon. Les Français, ça les dérangeait parce que dessus il y avait la tiare de la couronne britannique et tout. Donc pour une histoire de pavillon, hein, et pourtant Dieu sait s'ils ont essayé de transiger, à essayer de trouver des compromis, le verre, le machin, la couronne, etc. Il y a au niveau des archives des lettres à non plus finir concernant
cette histoire de pavillon
où on essaye de négocier, etc. Alors bien sûr avec la mainmise, comment dire, des Anglais qui sont derrière. Et puis Pritchard finalement quitte Tahiti parce que lui il file en Angleterre car il veut aller voir donc le Foreign Office pour les faire réagir en disant que les Français sont en train de s'installer et tout. Et donc du Petit Thouars, un petit peu exacerbé par cette histoire de pavillon, mais la reine lui envoie un ultimatum. Et à partir du moment où il lui envoie un ultimatum, il dit soit soit tu,
tu mets le
hisses le pavillon du protectorat, soit ben, je te dis, tu es répudié, saisi, etc. Et il passe à la menace. Et c'est la raison pour laquelle on est passé d'un système de protectorat, je dirais, français, à la française, okay, on a dit purement et simplement annexé, je dirais, Tahiti, position unilatérale prise par du petit oir. Car après, quand ils vont informer qu'ils ont annexé donc Tahiti, l'information va partir. Alors,
oui,
c'est long.
Part, le temps qu'elle arrive, temps, et que l'information
revienne. En fait, la Chambre ne va pas du tout ratifier la chose. C'est-à-dire que quand il va revenir, en fait, il va revenir en disant « on revient au protectorat ». Mais entre-temps, la reine, elle... Alors, là aussi, il y a le jeu de Pritchard. C'est que lui, quand il apprend, il est à Sydney, quand il apprend que... Tahiti, je vais devenir français et tout. Et donc, il va être derrière, et, mais surtout, il revient et il ne dit pas forcément les choses. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que le Foreign Office lui a donné des instructions de reconnaître le protectorat et de ne surtout pas se mêler de cette affaire. Par contre, il entretient un discours où il incite la reine à la révolte en lui disant que de toute façon, il y aura obligatoirement une intervention militaire anglaise. Et là, il joue un peu de la chose. Après, on connaît l'affaire. Hein, c'est que la reine se réfugie sur un bateau donc, britannique, hein, qui est au demeurant le premier stationné pas très loin de chez Pritchard et qui s'appelle donc le Basilic. Et puis après, il y a un second bateau qui va arriver, le Carisfort, qui va prendre la reine et qui va l'emmener donc à Raiatea. Donc au départ, elle voulait aller aux îles Hawaï, elle y renonce. Après, elle voulait aller donc à Bora Bora pour aller se réfugier chez son ancien époux Tapua. Et donc, mais comme lui, il est à Raiatea, elle va rejoindre donc son demi-frère donc Tamato. Et c'est comme ça que. Mais ce qui se passe? C'est, maintenant on va rentrer dans le sujet des guerres, c'est qu'au départ, quand elle prend le bateau, elle rencontre les chefs tahitiens.
Alors là, avant de partir. Donc.
Avant de partir sur Raiatea, et là, clairement, elle ne les incite pas à la révolte. Elle dit, elle les incite à la résistance. Alors c'est dans les missives, c'est... Quand en face de vous, vous avez 20-25 personnes, comment dire, vous résistez. S'ils sont plus nombreux, vous vous effacez. Okay. Mais en fait, elle pousse, comment dire, à la révolte. Et donc, après, elle va rejoindre donc, Tamatoa, donc à Raiatea, où elle va quand même rester 3 ans. Hein. Donc, et puis,
oui, donc elle est absente pendant toute la durée du conflit.
Elle est absente, mais elle a laissé les instructions et donc aux chefs de district qui, eux, eh ben, vont donc appeler à la révolte. Et ça commence d'abord du côté de Taiarapu, hein, c'est-à-dire que toute la presqu'île va se vider pour aller rejoindre un camp qui est à Hitia et qui est conduit par la chefesse donc, de Hitia. Mais les Français, ils sont au courant que c'est en train de se vider. Et c'est la raison pour laquelle ils vont donc gagner la presqu'île et qu'en débarquant, ils vont se mettre au niveau de l'isthme pour pouvoir empêcher... Je dirais que les dissidents, on va les appeler comme ça, hein, parce que...
D'où moi, le fameux fort de Taravao,
alors,
en fait.
Le fort de Taravao, en fait, il va sortir de terre à cause du premier, de ses premières escarmouches. C'est-à-dire que quand ils débarquent, okay, ils se font tirer dessus. Dans le faisant tirer dessus, ils s'enterrent, ils créent une redoute, et de la redoute sort le fort de Taravao, qui est censé faire blocus entre la presqu'île et le... Et donc, et c'est la raison pour laquelle les premiers coups de fusil vont dater donc de mars donc 1844, où à Taravao, on va commencer à se tirer dessus. Et il y a mort d'homme, hein, mort d'homme des deux côtés. Alors, autant les pertes chez les Français, on les connaît, parce qu'en fait, il y a les registres, autant les pertes chez les Tahitiens, on a du mal à les connaître, car en fait, ils ne laissent pas, dans la mesure du possible, leurs blessés et leurs morts sur le terrain.
Ah, ils les embarquent.
Ils les emmènent. Ils les emmènent avec eux. Et ça commence comme ça. Donc, dès que ça commence à cogner du côté de Taravao, et tout, qu'est-ce qu'il fait, Brua ? Brua, il prend donc... alors, ils avaient un... Brua, dans la ils ont fait venir un bateau qui est donc un vapeur et qui s'appelle le Phaéton. C'est très important parce qu'il avait besoin d'un bateau qui lui permette de faire... Parce qu'il est aussi, je dirais, il a la main sur les marquises, hein. D'accord. Donc en fait, il débarque d'abord par les marquises.
Ah oui, avant de venir sur Tahiti, c'est un peu la base arrière.
C'est-à-dire qu'en fait, quand ils voient qu'au niveau des marquises, il ne se passe pas grand-chose, ils vont donc vider les marquises. Ils vont laisser que quelques forts, et toutes les troupes vont être amenées donc sur Tahiti. Et donc, il avait fait venir donc ce bateau, hein, le vapeur Phaéton. Alors, c'est très intéressant parce que, mine de rien, il fallait du charbon. Il n'y a pas de charbon à Tahiti. Si on lit les débats à l'Assemblée nationale, on apprend que ça coûte une fortune aux contribuables français, qu'ils ont été obligés de passer un appel d'offres international auquel les Anglais ont répondu via donc des correspondants chiliens, et qu'on vient de déverser 1 million de tonnes de charbon, un tiers aux marquises, 2 tiers à Tahiti, pour pouvoir permettre donc à ce bateau, le vapeur donc Phaéton, de pouvoir naviguer. C'est très important parce que les autres bâtiments, ils sont à la voile, et c'est pas aussi évident que ça que de pouvoir naviguer à la voile, et souvent le Phaéton se relaie en tractant les bateaux.
Ok, intéressant.
Et donc notre ami Brua prend donc le Phaéton et il file à Tarawao. Quand il arrive à Tarawao avec un ensemble de troupes, tout est déjà joué. Et il décide de retourner à Papeete en passant par la côte est.
Donc devant Hitiya.
Et donc il passe devant Hitiya où il balance quelques petits coups de canon et tout. Et ils arrivent surtout à Mahaena. Et là, ils voient qu'à Mahaena, eh bien, les dissidents, hein, on va les appeler comme ça. Moi, je préfère les appeler les Tahitiens. Hein, okay. Voilà, les Tahitiens. Je préfère dire les Tahitiens, parce que ce sont les Tahitiens. Il n'y a pas de notion de dissident, il n'y a pas de notion de
renégat,
de rebelle
de
et tout.
Sûr, oui.
Pour moi, il y a les Tahitiens, il y a les Tahitiens qui combattent, je dirais, les Français. Et dans les rangs des Français, il y a ce que j'appelle les auxiliaires Tahitiens ou, je dirais, les ralliés. Au niveau des chefs. Hein. Donc en fait, les Tahitiens, eh bien, sur presque 1,8 km, ils ont dressé une tranchée, hein, et ils sont prêts à soutenir donc un assaut. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend bien que dans leur rang, ils sont encadrés par des colons, des mercenaires ou des déserteurs. Hein. Mais certainement pas des officiers. Car vu leur nombre, moi je dis que s'ils avaient eu des officiers dans leur rang... Ils l'auraient emporté.
Hein? Parce qu'ils étaient plus nombreux.
Ils étaient beaucoup plus nombreux. Et ils sont bien armés. On n'est pas du tout dans... Ce n'est pas les cow-boys et les Indiens.
Dans cette image qu'on a souvent d'un camp armé et d'un autre camp qu'il était beaucoup moins.
Plusieurs choses intéressantes. N'oublions pas que nous avons une mainmise du protestantisme. Donc les gars, ils ne se baladent pas à poil. D'accord ? Le tatouage n'a plus. Et ils sont armés par les Anglais. Et à l'époque, le meilleur des fusils, c'est le fusil anglais.
Oui, donc ils sont bien équipés.
Et ils sont bien équipés, mais ils ont aussi des canons. Ils ont des obusiers. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne savent pas s'en servir. Et ils n'ont pas la stratégie que peuvent, si vous voulez, avoir les troupes françaises. N'oublions pas aussi que dans le contexte, hein, quand on fait venir quelqu'un comme Brua, il a participé à la conquête de l'Algérie. Là, il y a eu de sérieuses guerres. Ce sont des hommes de guerre en face. Ils ont l'habitude de la guerre. Ils savent ce que c'est que la guerre. Et même dans leurs troupes, hein, ils ont des gars qui savent se battre. Hein. Ça, ils ont été formés pour ça. Quand on voit les citations, on se rend compte qu'on n'a quand même pas envoyé des gens
qui étaient inexpérimentés.
Ce sont de vrais soldats. Hein. Ils ont été formés. Et puis derrière, il y a quand même, n'oublions pas, cet héritage de la guerre, hein, des guerres napoléoniennes et tout. L'Europe... La violence, elle est omniprésente. La guerre, elle est omniprésente. Hein? C'est dans toute l'histoire de France, on voit bien qu'on a passé notre temps à faire la guerre.
Oui, c'est pas si loin que ça, les guerres napoléoniennes, bien sûr.
On sait faire
la guerre,
voilà. Et donc, à ce moment-là, Brua, lui, en fait, il voit la chose, et comme c'est un homme de guerre, tu sais, etc. et tout, en fait, il peut pas s'empêcher de préparer un plan, dit « je vais les attaquer ». Donc à ce moment-là, le deuxième, ce qui va se passer, c'est que le deuxième affrontement va avoir lieu à Mahaena. C'est un débarquement de vive force, hein, où ils vont repousser. Donc il y avait trois redoutes. Hein. Mm-hmm. Ils vont prendre successivement les redoutes et bien sûr ils vont les repousser. Ils vont les repousser. Alors, mais les combats sont terriblement meurtriers. Ça, c'est important. Ils sont terriblement meurtriers parce que d'abord, il y a des tirs de couverture. C'est-à-dire que les bateaux qui sont en fat, l'embuscade, phaéton, etc. et tout, ils leur tirent dessus. Hein, donc, il y a des tirs de barrage. Et ensuite, quand ils débarquent, ils chargent, etc., on combat au corps à corps dans les tranchées, mais surtout, on utilise des armes de poing au corps à corps et on utilise du gros calibre. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans les rangs français, il va y avoir quand même des pertes sévères. Hein. Il y a à peu près une quarantaine de soldats qui sont tués, mais il y a à peu près une centaine de blessés. Et ce sont des blessés graves. Hein. Il faut savoir que quand on prenait une balle dans la jambe, ça finissait obligatoirement par une amputation. Ah, hein, ouais. Parce qu'en fait, tout était parti.
Oui, on imagine bien que... Bon,
et du côté des rangs tahitiens, eh ben, certainement aussi énormément de pertes. Donc, on a quand même... Il faut avoir à l'esprit que quand il va y avoir ce débarquement de vive force, on est à Tahiti, on est dans une terre, de, je dirais, paradisiaque et tout, mais ils se sont battus. Ils se sont battus sévèrement. Et n'oublions pas aussi que c'est que les Tahitiens, c'est un peuple de guerriers. Eux aussi, ils se battent. Et ils n'ont pas peur. Donc, des deux côtés, d'un côté, il y a, je dirais, des gens qui ont une certaine maîtrise de l'art de la guerre, mais de l'autre côté, il y en a d'autres aussi qui savent aussi se battre, et qui se battent bien. Et il va y avoir des tués, donc, des deux côtés. Et bien sûr, eh ben, ils sont repoussés, et de Mahaena, ils vont aller se réfugier dans les vallées de Papeno. Mais Bruya, il a fait une erreur. Il a fait une erreur stratégique. C'est qu'en fait, il a dégarni Papeete.
Ah.
Et c'est-à-dire que s'ils avaient eu des stratèges dans les rangs des Tahitiens,
ils auraient pu,
ils occupaient Papeete. Et c'est-à-dire que Bruya, il aurait dû reconquérir Papeete. Hein. Et donc, il l'a laissé notamment à un officier qui s'appelle Daubigny, et tout, qui lui bah, se retrouve qu'avec une centaine d'hommes, hein, pour garder la ville et tout, et il se fait attaquer, enfin, plus ou moins il anticipe plutôt, hein. Donc il va anticiper avec donc un officier qui s'appelle Bonnard. Ils savent qu'il y a les gars de Faa qui sont en train de marcher avec les gars de Punaouya et ils vont aller à leur rencontre. Et quand ils vont aller à leur rencontre, donc c'est l'épisode de Faa et tout, eh bien, ben, en fait ils se font, en fait ils ont été trahis. Ils ont été trahis. Parce qu'on est venu voir Bonnard, on lui a expliqué qu'il y allait avoir un rassemblement qui pouvait faire 100 coups férir, donc, et tout. Mais en fait, les autres, ils ont tout monté de toutes pièces, ils les attendent. Et en fait, ils tombent dans une embuscade.
Ah, ok. C'est un piège, quoi.
Voilà, c'est un piège. Donc, il y a l'épisode de Faa, hein, et à ce moment-là, ben, ils se replient, je dirais, en bonne... je dirais... Il se replie de façon pas trop désordonnée, mais qu'en fait, Bruya revient avec tous ses blessés qui arrivent de Mahaena. En fait, il se retrouve, cette fois-ci, Papeete est en état de siège. Il n'y a plus que Papeete. C'est-à-dire que toute l'île autour...
s'est révoltée et contre...
Est en rébellion. Mm-hmm. Voilà. Et c'est... Alors après, bien sûr, il va y avoir toute une chronologie de batailles qui vont donc se succéder, et notamment à travers des retranchements. Différents retranchements. Après, il va y avoir des expéditions punitives. Après Papeete, donc on va remonter sur la pointe Vénus, qui s'appelle à l'époque Ha'apapé. Hein. Donc là aussi, il va y avoir des combats. C'est là où le fameux missionnaire Mackin se prend une balle entre les deux yeux. Et la stèle commémorative de Mackin, elle est au musée donc, de Tahiti et des îles. Donc voilà, un peu tout abîmé, fragmenté et tout. Il va y avoir ensuite donc, une action sur Papeete. Non. Hein? Et puis ensuite, il va y avoir d'autres actions sur donc Punaouya qui vont amener donc une action aussi sur Punaru. Et en fait, on va se retrouver en situation plutôt, je dirais, d'encerclement de ces camps, de blocus, hein? Jusqu'à ce que donc le fort de Fatawa tombe le 17 décembre donc 1845.
Ah, 45.
Okay. Voilà. Et que ce fort de Fatawa, qui permettait de communiquer avec le fort, avec le camp de Punaouya, parce qu'il passait par les hauteurs et tout, eh bien, en fait, va permettre aux Français de les prendre à revers. Et à ce moment-là, on va rentrer dans un processus de reddition. Et l'ensemble des camps vont, les gens vont se rendre. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu une évolution. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, à travers les textes, on le voit, faire la guerre, c'est bien. Mais il y en a beaucoup qui commencent à se rallier.
Oui, parce que tout ça, ça dure quand même 2 ans.
Ouais, hein. 44, 46, mais ils sont un peu fiou, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi économiquement derrière, il y a. Il
se oui, passe on imagine chose. Bien que ça.
Ben, les plantations, les razzias, les meurtres, etc. et tout. L'économie, elle est un peu vacillante et tout. Et puis, le Tahitien, il a besoin de manger, ok. Et puis, au bout d'un moment, il en a marre de la guerre. D'accord. Et Brua a des attitudes conciliantes. Il n'a pas d'attitude de répression. Hein. C'est-à-dire que les gens, quand ils se rallient, peuvent retourner chez eux, vont pouvoir retrouver. Voilà, c'est...
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'action punitive envers ceux qui.
C'est un politique. Il a compris la mécanique. Okay, il y a un moment, il a compris que le temps jouant et tout, bon, il fallait une action militaire, je dirais, d'envergure. Hein. Ils l'ont faite en attaquant la vallée de la Punaru. Ça s'est mal fini. Donc, Brea a été tué, Perrot a été tué. On connaît ce genre d'épisode et tout. Il restait plus que le fort de... Il faut savoir aussi que Papeete est attaqué. Hein, okay. Donc, Papeete est attaqué, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on va sortir les remparts de l'Est, etc. et tout. C'est que Papeete est attaqué plusieurs fois. Il y a des opérations commando, de véritables opérations commando qui ont lieu sur Papeete. Ils attaquent notamment via Faa, le fameux poste de l'Uranie, hein, qui se situait à peu près au niveau du cimetière, et ils attaquent par les faubourgs de Pirée, Aroué, jusque dans Papeete, jusqu'au niveau des remparts de l'Est. Donc au bout d'un moment, Brua...
Oui, il faut que ça cesse.
Et, ben, le problème aussi, c'est qu'il y a une opinion publique internationale qui bouge, hein. D'abord dans l'environnement international qui est celui de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, à travers donc tous les médias, hein, qui sont publiés, c'est les méchants français qui massacrent les Tahitiens, blablabla, etc. et tout. Il y a tous ces bateaux qui touchent donc Tahiti, même s'ils n'ont pas l'autorisation de débarquer avec leurs équipages et qu'il y a un règlement de port qui est très sévère, parce qu'en fait les Français, on est en état de siège, en état de guerre et tout. Eh bien eux, quand ils retournent en Australie, donc qui s'amènent des informations qui sont un peu tronquées, etc. et tout. Et puis surtout, ça monte à la chambre. Et ça monte aussi au niveau international, entre le Foreign Office et au bout d'un moment, le gouvernement français, il dit il faudra peut-être que ça cesse. Hein. Alors trouvez-moi une solution. Mais ils privilégient, après l'action guerrière, ils vont privilégier, comment dire,
la négociation,
la discussion. Voilà. Et c'est comme ça que les choses vont progressivement rentrer, je dirais, dans l'ordre. Comparé, par exemple, aux îles sous le vent, il n'y aura pas de mesure, je dirais, de déportation. Mm-hmm. Les grands chefs sont
réhabilités, c'est ce que tu disais.
Dans leur fonction, etc. Leurs biens, parce que Brua, il les connaît, il va les rencontrer.
Oui, puis peut-être qu'il comprend aussi qu'il faut reconstruire le pays avec eux. En
oui,
fait.
Parce qu'il y a toute une économie qu'il faut relancer. Ces deux guerres, il y a eu énormément de destruction, hein, et que elle est préjudiciable, je dirais, donc à l'économie du pays. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que moi, le sentiment de ce qui a été et que j'ai développé, c'est qu'en fait, Brua, il voulait en faire donc une colonie française, mais il n'a pas assez de monde. Parce qu'il y a très très peu de résidents français qui viennent s'installer par an, face à une majorité quand même anglo-saxonne. Et c'est la raison pour laquelle il va mettre en place un système qui va être celui, c'est pour ça que je l'appelle Tahiti colonie militaire, car tous ces soldats qui sont venus faire la guerre ici, il va leur donner la possibilité d'être démobilisés,
de s'établir,
à Tahiti, de prendre épouse. Mm-hmm. Okay. Et en fait, tous ces soldats qui vont être démobilisés, pour beaucoup d'entre eux, vont constituer les souches des familles demi que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, parce que tu l'as un petit peu évoqué aussi, c'est un moment aussi où il y a une crise démographique importante à Tahiti, avec la population polynésienne qui a chuté terriblement, et donc quelque part il faut repeupler l'île.
Oui. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de guerre, mais il faut savoir aussi que le contact n'est pas toujours très sain pour ces populations donc, locales qui ne sont pas immunisées comme, contre tout un ensemble de maladies. Il y a par contre dans les documents que j'ai eu en main, il y a quand même le poids des maladies vénériennes. C'est incroyable. Hein. C'est franchement, c'est le premier des fléaux des maladies. Hein. Tous ces marins qui arrivent, les soldats et tout, les maladies vénériennes au niveau des souches polynésiennes, c'est très très sévère. Donc effectivement, il y a une population qui est décroissante, hein, qui était plus décroissante du fait, je dirais, de la maladie que de la guerre.
Oui, donc du coup, il est nécessaire d'en construire. Alors, cette histoire, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'elle est très peu connue à Tahiti. On l'évoque assez brièvement dans les manuels d'histoire, encore aujourd'hui. Ouais. Hein, et pourtant, on peut encore en voir quelques traces. Tu citais la Punaru et les fortins de la Punaru, sur lesquels tu as aussi travaillé beaucoup, hein, pour en tout cas leur entretien et leur réhabilitation progressive. Donc, ce sont en fait les dernières traces de ces conflits, ces fortins, je veux dire.
Oui,
et quelque part le fort de Taravao que tu évoquais également.
Oui, en termes de, je dirais, de vestiges. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, oui. Alors, quand on est dans le côté proprement guerrier, le premier fortin qui sort, bien sûr, c'est Taravao, hein, qui a toujours son carré historique, qui date donc de ces guerres,
période, ouais.
Donc dites franco-tahitiennes et tout. Et puis, effectivement, les trois fortins de Punaru qui avaient pour mission, je dirais, de bloquer la vallée. C'était un blocus parce que chose très importante, la mer, c'est que ils pouvaient être donc approvisionné en armes et en munitions par la mer, et notamment par les bâtiments anglais, et surtout par Riyater. Hein. Donc il y a toute une...
Oui, parce que la reine est à Riyater, il y a
voilà,
encore tout
et,
un...
Et c'est qu'ils n'amènent pas que des munitions, ils amènent des hommes aussi. Hein. Il y a énormément de natifs des îles sous le vent qui vont rejoindre les rangs, je dirais, des Tahitiens qui combattent les forces françaises. Hein, voilà. Donc oui, pour répondre à la question, à ma connaissance, il y a Taravao, il y a ces fameux fortins. Après, il va y avoir le Tahiti colonial. Hein. Mais le Tahiti colonial, il va arriver beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, par exemple, des bâtiments comme la caserne Brua, l'hôpital Vaiami, on n'est plus dans ces périodes-là. Hein.
C'est bien après, enfin, c'est un petit peu après.
Plutôt, oui. À partir du moment où Lavo arrive, il poursuit donc après Brua, je dirais, l'urbanisation
de Papeete.
De Papeete, hein. Voilà.
Ben écoute, je te remercie pour cette présentation. Alors, comme je le disais, tu es en train de préparer une série d'ouvrages, je crois trois,
oui.
Sur ces thématiques, et donc notamment aussi de la préparation d'articles, hein, puisque j'ai cité tes livres, mais tu es aussi très prolixe dans la presse locale ou sur différents supports dans la rédaction d'articles, d'informations sur tous ces sujets. Donc, bon, voilà, on a eu un aperçu de toutes ces recherches, mais on peut les retrouver au travers de tous tes articles et tes écrits sur ces thématiques. Donc, je te remercie. Et puis, on se donne rendez-vous, j'allais dire, pour la suite. Donc, on abordera la Première Guerre mondiale sur le deuxième épisode, si ça te convient. À moins que tu voudras développer entre les deux.
Sans problème,
parce que on sent bien que tu es passionné, par le sujet, puis surtout qu'il y a encore énormément de choses à découvrir et à partager sur ces thèmes.
Bien, moi, je pense que il y a une obligation de transmission, je dirais, de mémoire. Et le poids de mots, je dirais, a son importance. Par exemple, moi, je suis tout sauf un historien. Je ne suis pas un historien au sens où on l'entend.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé que tu es historien par passion, mais que ce n'est pas ta formation universitaire, on va dire.
Après, l'historien, tout dépend de ce que l'on appelle un historien. Parce que si un historien, c'est d'avoir suivi un cursus universitaire au niveau de l'histoire, où effectivement on lui donne une méthode, Après, la ressource, elle est la même.
Oui, bien sûr.
Okay.
Et tu as étudié les sources.
Et après, j'ai aussi, indirectement, j'ai travaillé avec les universitaires. Les universitaires m'ont montré comment on écrivait, comment on faisait opus situs, machin, etc. Et tout, quelle était l'importance. Et surtout, j'échange beaucoup avec eux. Hein. C'est-à-dire, il est clair que je m'attache plus au volet, je dirais, humain et au volet martial. C'est vrai qu'à côté, on l'a survolé, il y a un contexte politique, il y a un contexte sociologique, etc. Et tout. Moi, ma spécialité, elle est plus de dire qui étaient ces gens. Hein, et c'est la raison pour laquelle, dans mes écrits, on va entendre les noms des Tahitiens qui se battaient. Parce qu'on ne les connaît
pas. C'est vrai que tu fais bien de le souligner, parce que c'est quand même assez rare.
Parmi les grands chefs.
En général, on parle des généraux, mais on ne parle pas...
on ne connaît pas, comment dire, ces hommes.
Hein.
Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est, même d'un point de vue purement sociologique, mais qui étaient ces soldats français? D'où venaient-ils? À quel corps appartenaient-ils? Quel a été leur cheminement? Hein. Et ça, c'est très important, les unités, les armes, les cantonnements. Il faut savoir qu'il va y avoir aussi dans les rangs français une certaine lassitude. Il va y avoir énormément de désertions. Il y a des désertions qui sont réprimées. Je sais que par exemple, au niveau de l'Uranie, hein, eh bien, elle va être érigée une potence qui va pendre donc un dénommé Fabre. Qui avait entraîné avec lui, dans la rébellion, 6 autres soldats. Les 5 autres sont graciés, ils sont emmenés en France, et à mon avis, ils ont fini, dans les galères, ou je ne sais quoi. Vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est le côté... et puis, il y a aussi le poids des femmes. Car, ce qu'on ne sait pas, c'est que parmi les ralliés, eh bien, il y a des chefs qui ont donc une troupe, mais que quand ils vont à la guerre, okay, les femmes suivent derrière, elles peuvent se prendre des balles. Car en fait, c'est les femmes qui chargent les armes, qui les portent et qui les arment. Voilà. Il y a énormément de choses. Ensuite, il y a les colons. Hein. Vous avez des colons anglais qui sont pro-français, parce qu'en fait, en voyant le protectorat français, pour eux, ils sont très contents, parce que ce sont obligatoirement des commerçants et qui voient qu'on trouve une certaine
une organisation
et tout. Vous avez aussi des colons français, bien sûr, qui sont contents et tout, mais vous avez aussi des colons français qui sont anti-bruat, anti-protectorat. Et il y en a un qui est particulièrement prolifique, c'est un certain Lucas. Hein, et tout. Mais alors lui, il a écrit des tonnes de choses contre
sur le sujet.
Il a fait des mémoires contre le protectorat de Bruat. Vous voyez, il y a énormément. Ce côté, je dirais, sociologique est intéressant. Il y a le fameux Edmond de Gineau qui va venir, qui va écrire l'Océanie, qui crée l'Océanie française, qui permet d'avoir une première feuille de chou dans lequel, bien sûr, se fait taper sur les doigts parce que malheureusement, il a reporté, je dirais, les rapports des officiers avant qu'ils ne soient lus par le ministre, mais surtout aussi qu'ils n'ont pas de journal officiel. Donc en fait, ça sert de journal officiel. Et quand on lit Edmond de Gineau, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il fait aussi de la publicité du commerçant qui dit je viens de recevoir de l'étoffe de ceci, de cela. Voilà, vous voyez, et le commerce aussi avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et dans les rangs même des ralliés, dans les rangs, je dirais, des Tahitiens qui combattent, et on trouve un petit peu de tout. Quand ils attaquent Punaru, il y a dans leurs tués, ils trouvent un Maori de Nouvelle-Zélande, hein, et qui a le visage tatoué.
Avec un tamoko.
Avec le moko et tout, etc. et tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a les guerres dites franco-tahitiennes, il y a la même chose en Nouvelle-Zélande. Et là-bas,
oui,
ça cogne.
Oui, oui, c'est et la là, même c'est... période de
oui,
de
mais là-bas, c'est beaucoup plus grand. Je dirais, les pertes ne sont pas, je dirais...
Puis ça va durer longtemps aussi, ça va durer beaucoup plus longtemps,
voilà,
bien sûr.
Donc, est-ce que cet homme, il est venu avec une expérience de la guerre face aux Anglais qui l'amènent, je dirais, parce qu'il est monté sur un bateau, je ne sais pas comment il a fait la chose et tout. Après, il y a énormément de choses aussi qui se mettent en place. Le cimetière de l'Uranie, le premier cimetière, c'était pour enterrer nos soldats français qui avaient été tués. Hein? Parce que c'est très important, c'est que sur la centaine de blessés qui ramènent de Marina, très peu vont survivre, 5.
Oui, tu les évoquais tout à l'heure.
5, parce qu'on ne sait pas les soigner.
Oui.
Tandis que dans les rangs haïtiens, d'après ce qu'on en lit, c'est qu'eux savaient enlever la balle, savaient soigner, et en fait, ils survivaient aux blessures par balle. Ce qui n'a pas été le cas, je dirais, pour les blessés français, qui obligatoirement étaient atteints de gangrène. Mais à partir du moment où on amène des blessés, premier hôpital, il est à Tonnoir, puis après de Tonnoir, il va aller du côté de Vaiami, et puis à partir du moment où on crée un service de santé, il va obligatoirement donc servir aux populations locales.
Okay, bien
et
sûr,
les premières populations locales qui vont être servies, c'est justement toutes les femmes qui sont malades des maladies vénériennes. Il y a tellement de choses, il y a un enchaînement qui permet de comprendre comment, sur un plan administratif, tout ça s'est mis en place.
Hein. Oui, et comment au final, alors que c'était...
L'urbanisation amène obligatoirement un cadastre. Pour pouvoir construire des édifices militaires, il y a des expropriations.
Oui, alors on l'a évoqué...
Il y a énormément de choses.
On l'a évoqué en filigrane, mais c'est sûr que la question de la terre et des tomidés, de tout ce qui va se mettre en place aussi, et du cadastre, ouais. Tu fais bien d'en parler, va être liée à toute cette histoire. Donc... Évidemment qu'au travers du sujet de la guerre, tu fais bien de le souligner, on parle aussi de la société, de la politique et de la façon...
J'essaye un petit peu de replacer le compte, mais je ne rentre pas dans ce détail parce que ce n'est pas l'objet, je dirais. Moi, ce que je dis simplement, pour résumer un peu le sujet, c'est que maintenant, l'histoire a fait son temps. Ce que je veux dire simplement, c'est que... Il y avait une terre tahitienne, il y avait des populations préexistantes qui étaient régies dans un système monarchique, donc à l'anglaise, etc. et tout, et que, Tahiti a été pris de force, et que ces gens qui vont se battre contre les forces françaises, ils résistent. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il ne faut pas tomber non plus dans des schémas, les gentils, les méchants, etc. Et tout. Moi, j'ai eu le sentiment, à travers mes lectures, qui était que ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas être français. En fait, ils voulaient avoir le choix de pouvoir choisir, eux, leur protectorat. Et en fait, ils tendaient plus vers un protectorat à la britannique que les Anglais ne voulaient pas leur donner. Et c'est qu'au bout d'un moment, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, les Anglais les baladaient, et qu'ils ne viendraient pas. C'est comme ça qu'il a commencé à y avoir énormément de désertions, parce qu'ils ont été lucides en se disant que de toute façon,
ils ont compris au bout d'un moment que...
face, personne ne viendrait les aider. Et qu'il valait mieux jouer ce qu'on appelle la conciliation
pragmatique.
Et c'est ce qu'ils ont fait, car en réalité, et c'est pour ça que l'aboutissant, c'est de dire, mais en fait, qui a utilisé qui? Qui a colonisé qui? Et si c'était les Tahitiens qui avaient colonisé les Français en utilisant, comment dire, la colonisation pour leur dessein? Et quand on voit aujourd'hui le système politique actuel, en fait, il n'y a pas tellement de passerelle entre ce qui s'est passé, comment dire, au début du siècle, et aujourd'hui. On va là où l'herbe est grasse, là où on y trouve, comment dire, son intérêt. Voilà. Et on comprend mieux la mécanique. Il y a un mental. Il y a un mental politique. Parce que C'est ce que je dis aussi, c'est que nous, on a une définition de la liberté, on a une définition de l'indépendance, mais ce n'était pas la leur. Il y a une définition océanienne de ces mots-là qui n'est pas forcément celle que l'on croit. Voilà. C'était pour ça que je me suis intéressé au sujet.
Bah écoute, je te remercie. Je pense que ça appelle plein de réflexions extrêmement riches. Et donc, on a hâte de te retrouver très bientôt, le mois prochain, pour la suite de toute cette aventure. Merci à toi.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maruru roa.